Raté. 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 Raté.
Rature, comme un trait que l'on tire sur un ou plusieurs mots pour les annuler ou remplacer, dit le Larousse.
Rature, le signe du ratage, parce que c'est un passage obligé et qu'il est temps de ne plus cacher les coutures.
Rature, une émission de décryptage artistique où comment on fait, défait et refait les choses.
Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better.
Déjà essayé.
Déjà raté.
Peu importe.
Essaie encore.
Rate encore.
Rate mieux.
Pas si bête, Beckett. Il est 21h sur la clé des ondes et cela fait une petite heure que vous avez les résultats des élections législatives du premier tour. Oh là là là. Mais il faut qu'on vous le dise, cette émission est en léger différé. Nous avons pris soin de ne pas nous laisser aller aux émotions d'une soirée électorale. Dans les faits, nous sommes vendredi matin, la campagne tire à sa fin. On a tracté, manifesté, on a écouté les gens. Mais ça fait quand même flipper. Rature n'est pas une émission culturelle dégagée. Nous participons à notre manière à nous battre contre le fascisme. Pour cette fois-ci, nous avons décidé de faire une émission spéciale sur le festival Chahut. Et quoi de mieux que le Chahut pour combattre la résignation et l'austérité des réactionnaires? Quoi de mieux pour développer le thème du festival hors normes, pour défier les conservateurs de tout poil? Normalement, nous travaillons avec une thématique et cette fois-ci, on vous propose de finir l'année sur quelque chose que nous faisons parfois par ailleurs. Une forme de vadrouille, une visite guidée de cette très belle édition de Chahut 2024.
Et ouais, ça fait quelques années maintenant, Rémi, qu'on suit le festival Chahut ensemble avec une petite équipe de La Clé des Ondes. On s'immerge, on se plonge, ambiance festival et on essaie de transmettre un peu ce qu'on a vu, ce qui nous a fait vibrer. Cette année, et comme on n'a pas peur dans Rature de montrer nos coutures à nous, eh bien c'était un chahut particulier parce que traversé par des deuils pour chacun de nous, une ambiance sociale, électorale pas super légère, mais on a réussi à faire notre petite série de podcasts Chahut que vous pouvez retrouver sur le site de La Clé des Ondes et qu'on va continuer à finaliser dans les jours à venir. Si on a voulu consacrer notre dernière rature thématique à Chahut, c'est que Rature est une émission mosaïque et Chahut est un festival mosaïque, fait de toute la diversité de propositions, de spectacles vivants, déambulations, travail dans les quartiers, gens de partout, joie de partout. Participer à Chahut, c'est entrer dans un tourbillon, une effervescence de rencontres en tout genre. Et puis c'est un festival des arts de la parole. Alors, je voulais commencer comme ça pour ma part, par un petit détour de paroles glanées ça et là. Dans cette émission, on a choisi de présenter l'infra du festival, les paroles alentour, les à côté.
Des paroles volées, à la volée.
Au fil de sons parfois bizarres, parfois lointains, parce que les prises se font au milieu du public, dehors, du on et du off, de la rature quoi.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots.
Paroles, paroles, bonbons et chocolat. Petit hommage en extrait de la diversité de paroles entendues dans ce festival. Au son des bruits de rue, parce que c'est parfois dehors, Chahut, il y a du monde, des enfants qui font du bruit, et puis des enfants qui parlent aussi. Par exemple, on a pu entendre les paroles d'enfants présentées dans le cadre du colloque des enfants, animé par les araignées philosophes Héloïse Dravinier et Cécile Maurice, un groupe d'adultes volontaires et les élèves de deux classes de CM1, CM2 de la Penauche.
Bonjour mesdames et messieurs, nous nous appelons Lucien et Chris. J'espère que vous êtes bien installés car un très beau colloque vous attend dans quelques instants. N'oubliez pas de mettre vos téléphones en mode avion et de ne pas faire beaucoup de bruit. Bon colloque !
Et
parler de la pollution. Je voudrais en parler aux adultes pour qu'ils comprennent que c'est mal.
Ainsi, on a vu se succéder sur scène, chacune, chacun leur tour, des enfants qui parlaient de leur truc à elle. Et il y avait une excitation palpable pour elle à ce que, pour une fois, ce soit elle qu'on écoute.
Donc Aïssa, toi tu as parlé des jeux vidéo.
Oui.
Pourquoi que... Alors, tu peux nous expliquer pourquoi... Comment vous avez choisi la thématique? On vous a dit, vous prenez...
La maîtresse, elle nous a demandé quel sujet vous aimeriez bien parler, est-ce que vous préférez. Et moi, je voulais parler du foot, mais vu qu'il y avait Mohamed Amine, déjà, il parlait de ça, donc je me suis dit, pourquoi pas trouver un autre sujet? J'ai trouvé les jeux vidéo, mais je ne savais pas que Sydney faisait aussi
Ah ouais, il y avait deux personnes sur les jeux vidéo. Mais ça n'arrivait pas qu'avec les jeux vidéo, il y a aussi le handball qui arrive deux fois, enfin... C'est pas très très grave parce que vous dites pas tout à fait la même chose.
Non, du pas du tout.
T'es en quelle classe toi?
CM2.
CM2. Et est-ce que t'as l'impression, qu'est-ce que t'as l'impression d'avoir appris en faisant ça?
Bah, apprendre la parole déjà.
Ouais.
Ne pas avoir peur.
Ouais, c'est ça qui est difficile.
Et voilà. Au début, en fait, au début, quand on est là-haut, on stresse un peu. Mais quand on est vraiment avec le micro et on est en train de lire, c'est vraiment bien.
Ah ouais, ça t'a, pris, t'as pris du plaisir en fait pendant que tu parlais.
Oui.
Ah, super.
Exactement.
Merci beaucoup.
De rien.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors comment tu t'appelles?
Maïssa.
Maïssa. Et t'as parlé de quoi toi?
La pollution.
D'accord. Pareil, c'est parce que c'est le sujet qui t'a. C'est ça qui t'est venu en premier?
On voit beaucoup de déchets et en fait c'est mal pour notre planète et pour nous, donc j'ai voulu parler de ça.
Et donc c'est pareil parce que Riab, elle me disait qu'en fait vous avez parlé de ce que vous vouliez dire et après il y a quelqu'un qui l'a écrit pour vous.
Oui.
D'accord.
On parlait et après quelqu'un écrivait avec un peu plus de sens et de français.
D'accord. Et après vous aviez un temps où vous appreniez à le lire, à le dire devant le public, comment ça se passait?
Oui, en fait on parlait mais on nous disait que tu peux regarder quand même ton texte un peu. Qu'on le regardait un peu et après on parlait, on levait la tête.
Ok. T'as l'impression d'avoir pris un peu confiance en, un peu plus confiance en toi en
faisant ça ? Oui, mais qu'est-ce qui m'a fait un choc, c'est que j'étais première. Mais après j'ai donné aussi un peu moins de stress aux gens.
Ah oui, bah oui, parce que c'est toi qui as lancé le spectacle, quoi.
Oui.
Ouais.
Bon. Mais c'est bien, hein. Ben, je m'attendais pas d'être première. C'est vrai que je parle bien et ça m'a émue. Un peu.
Ah oui, c'est vrai?
Oui.
Ça t'a ému parce que quel genre de quel type d'émotion tu parles? Ça t'a rempli de quel genre d'émotion?
De joie. Que de joie.
D'accord.
J'étais contente.
Ouais, c'était de voir les gens, la réaction des gens, tout ça.
Oui, surtout qu'ils rigolaient à quelqu'un parler, ça me faisait aussi rigoler un peu.
Bah ouais. Bon bah c'est super, tu vas passer une bonne soirée, une bonne nuit alors maintenant.
Oui.
Il y avait tes parents dans la salle?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce que ça te faisait? Qu'est-ce qui t'a dit?
J'étais heureuse parce que je prenais la parole devant mes parents. Donc d'habitude, c'est moi qui les respecte.
D'accord, d'habitude, c'est plutôt eux qui parlent, c'est ça? Et là, c'était toi qui avais la parole, c'est ça?
Oui.
Bon, bah, super.
Merci.
Bon, bah, j'espère que ça te servira plus tard, alors.
D'accord.
Bonne soirée.
Merci.
Merci.
Autre parole d'enfant, découverte au hasard de l'écoute de ma carte SD, celle de mon fils qui divague avec le zoom alors qu'on va commencer le parcours de géographies intimes de Lancelot Hamelin.
J'espère qu'il y a la rue Balise.
D'accord.
Et puis il y avait un numéro de téléphone.
La 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 la.
Il y a deux Luna dans son. Deux filles qui s'appellent Luna dans son agenda. Et elle avait donné un numéro. Donc elle leur téléphonait. Il tombait sur une fille qui n'était pas du tout au courant.
Comme oui.
De quoi il s'agit. Voilà, donc ça a été un peu le. Mais là, normalement, voilà. Voilà, voilà. Bon, il y a des gens qui étaient un peu ronchons là-dessus. Un journaliste qui n'était pas content.
Parole et voix. Cassée ce jour-là, mais si percutante, celle de Julie de Bordeaux des Tours, qui nous a fait la visite à vélo d'un Bordeaux décolonial décapant comme son énergie.
Tu es pour moi. Complètement malade, du coup je vais peut-être avoir un peu de difficulté à porter ma voix. Donc il va falloir qu'on essaie de trouver le bon dosage entre suffisamment près pour que vous m'entendiez et pas trop pour pas que vous tombiez également malade. Voilà. On essaiera de naviguer dans la ville pour trouver des endroits un peu tranquilles. A priori, vous allez voir qu'on ne va pas aller vers les points les plus touristiques de Bordeaux. Donc on devrait être à peu près tranquille. Alors je m'appelle Julie, je suis guide conférencière à Bordeaux depuis 2016. Donc j'exerce majoritairement en indépendante. Et en complément de mon activité donc de médiatrice et de facilitatrice de rencontres avec le patrimoine et le matrimoine local, je suis aussi médiatrice chez Médusine. Donc je travaille. En tout cas, mon parcours de vie m'a amené à travailler sur les mémoires des personnes minorisées ou en tout cas invisibilisées dans l'espace public. Donc les femmes d'abord. Et puis Bordeaux étant, et je pense que vous n'êtes pas. Vous ne serez pas surpris par cette information, voire certains d'entre vous doivent déjà le savoir. Bordeaux était le premier port royal, le premier port colonial de France au XVIIIe, et la ville dans laquelle vous vivez, ou en tout cas dans laquelle vous résidez, s'est construite sur la prédation esclavagiste des Africains et Africaines déportés aux Antilles. Et donc, ça m'a amené aussi à souvent devoir animer des visites autour du port négrier de Bordeaux, du port colonial de Bordeaux, et quelle ne fut pas ma grande surprise, oh là là, de se rendre compte que les gens étaient quand même encore vachement racistes et qu'ils avaient quand même vachement de mal à reconnaître, à accepter cette part sombre de l'histoire bordelaise et à accepter que entre ce récit-là et le décorum bordelais bâti au 18e, il y a un lien direct en fait. Voilà. Toutes les façades, toute la grandeur 18e néoclassique de Bordeaux n'est pas sortie des choux en fait. Voilà. Et
parole de Marie, à l'image de celle d'un public souvent rencontré, ravi de son expérience chahut.
Voilà. Donc bon, c'est un petit monde hein, qu'il va falloir d'ailleurs élargir. Hein,
merci.
Merci tout le monde.
Merci beaucoup.
Ça vous a plu.
Ouais, bon, alors,
c'était passionnant.
Ouais. Ah, donc Marie.
C'était passionnant.
Voilà. Non, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce
c'est
qu'on
incroyable.
Peut rajouter.
Ouf, je sais pas.
On a même parlé quand même de Francis Cabrel. Ça, je m'y attendais pas.
De la famille Hallyday.
Ouais.
Enfin, c'est incroyable. Les liens qu'on peut tisser, du coup, voilà. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Non, ouais, j'avais cette sensation, en tout cas, moi, de. Je sais pas, d'ouvrir mon cœur. Enfin, ça ouvre mon cœur, c'est assez incroyable ces découvertes, ces discussions, ces échanges-là autour de Chahut et bien sûr plus largement en tout cas. Mais voilà, ça ouvre le cœur. Enfin, on sent vraiment une espèce d'ouverture de cœur. On fait waouh, ah, ça fait de la place, ça fait du bien, ça aère, ça respire, ça fait du bien.
Ah, mais écoute, c'est une belle conclusion. Mais en plus, c'est vrai, parce que ça crée du lien aussi entre les gens qui écoutent, sans qu'il y ait vraiment forcément des relations. Mais
c'est
voilà,
clair,
on se solidarise, quoi.
Ouais, on capte des choses, on peut en rire, ça fait du bien aussi. Tout n'est pas triste et tout ne met pas en colère. Voilà, ça ouvre aussi. Là, ça fait du bien, surtout par ces temps. Voilà.
Ok. Eh ben super, merci beaucoup Marie.
Merci.
Juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi.
Et puis une soirée autour de la parole comptée pendant la nuit du conte, avec entre autres la compagnie de la Cour des Comptes et Céline Ripoll, vue par ailleurs pour son crash texte, né le 8 mars 1977. Une nuit initialement prévue dans le square d'Ombedos, mais il pleut, alors on change de plan, parce que c'est ça, j'ai eu aussi, faire avec ce qu'il se passe, faire avec la vie, quoi. Et on a beau être dans la halle des Douves, on a l'impression d'être autour d'un feu de camp, avec plein d'amis qu'on connaît pas, des jeunes, des moins jeunes, alors, tous à écouter ces histoires qui finissent en chansons.
Et ils ne sont pas du tout comme ils les imaginaient. Parce qu'ils sont là, les oiseaux de Bohème, au bord de l'étang, sur la plage, et... Et ils sont grands, et ils sont beaux, et surtout, ils battent des ailes en cadence, et... Ils chantent, ils dansent, et c'est pas mal. Et le vieux coq, il sent comme ça que... Il a la musique qui commence à le prendre aux pattes. Alors, discrètement, comme ça, dans les fourrés, il se lance. Et... Wouhou! Et une patte, deux pattes, à gauche, à droite. Et une patte, deux pattes, à gauche, à droite. Et une patte, deux pattes, à gauche, à droite. Deux pattes, à gauche, à droite. Deux pattes, à gauche, à droite. Et petit à petit, la lumière change. Elle devient bleue, puis noire, puis bleue, puis fut grise. Et puis elle devient blanche. Et quand le soleil se lève, et qu'il frappe de ses premiers rayons la cime des plus hauts sapins, c'est le signal, c'est le signal.
Alors, les oiseaux de Bohème, entraînant avec eux les dindons, les canards, et même le vieux coq satisfait, eh bien, ils s'envolent dans un grand tourbillon de pluie.
Et eux qui n'avaient jamais volé, eux qui avaient oublié jusqu'à l'existence de leurs ailes, eh bien, on raconte qu'ils sont allés si haut et si loin que la ferme, la basse-cour, le poulailler sont devenus tout petits. Tout petit, 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 tout petit.
Normal de Johnny Jane. Parce que cette année, la thématique de Chahut, c'était la norme.
Le hors norme.
Oui, et on a bien travaillé cette question puisqu'on a participé à l'animation d'un plateau radio hors norme sur l'initiative d'Élise Rocher avec Lancelot Hamelin, écrivain, artiste, qui est dans un compagnonnage avec Chahut, Charlotte Bonnefond, écrivaine.
Il y avait toute l'équipe de La Clé des Ondes aussi qui était présente.
Toute l'équipe de La Clé, Octave, Rémi, Xavier, Léa et Léa, enfin, etc., etc. Et puis aussi les collectes. Alors j'ai mis, je sais pas si on dit collectrice ou collecteuse de paroles autour de la norme, du cadre, de la folie, de la marge. En fait, via le projet avec Lancelot Hamelin. Ils sont allés interroger des gens qui étaient dans l'espace public sur ce que c'est la folie, etc. Et donc on a travaillé autour de cette question. On peut écouter le podcast d'ailleurs sur les podcasts Chahut. Et c'était vraiment très très riche en tout cas dans les échanges. D'ailleurs, Lancelot Hamelin est toujours en compagnonnage avec Chahut et ça promet des choses à venir dans le quartier Saint-Michel toujours.
Alors, pour tout vous dire, ça fait quand même quelques semaines que nous avions envie de parler de la marge. Cela nous dit quoi d'être dans la marge ? En quelque sorte, on avait envie de déployer cette question en relation avec la thématique hors norme de Chahut. Le temps nous rattrape et puis on ne peut pas aller plus vite que la machine, même si ça infuse dans nos petites têtes de radioteureuses. Donc le vendredi 7 juin, durant la fête de la Saint-Jean, au Parc Pinson et suite au spectacle Fantôme, j'ai tendu mon micro à un groupe de jeunes. Allez, on écoute. Elle est où la marge ?
Elle est partout. Elle est partout, mais parfois invisible.
Ouais, pas assez représentée.
Mais est-ce que...
Qu'est-ce qui définit la marge ?
Est-ce que la marge est dans la page ?
Alors là, tu me poses une colle. En tout cas, la marge est peut-être imposée par les dominances. Enfin, elle n'existerait pas sans dominant, sans hégémonie, j'imagine. Après, moi, je suis pour les marges. Enfin, dans le sens, je trouve ça stylé qu'il y ait une espèce de culture hégémonique et puis une petite marge à côté, ça permet de créer des trucs bien plus stylés que si on était tous lisses. Je dis pas que je suis pour qu'il y ait toujours des rapports de pouvoir, mais d'un côté, j'aime bien ce petit truc underground.
Et est-ce qu'on pourrait pas rêver d'un monde sans marge ?
C'est assez utopique comme vision. Dans l'idée, c'est chouette. Après, je pense que la question ne se pose pas et que l'idée, c'est justement d'essayer de créer dans les marges actuellement et regarder ce qui s'est passé dans les archives et dans le passé et de continuer sur une lancée militante des marges pour aller plus loin et évoluer avec son temps. Mais je pense qu'il y aura toujours des marges.
De toute façon, les marges, elles bougent tout le temps, elles sont constamment remaniées, on va dire, parce que tout le temps, elles sont la culture dominante vient reprendre les marges pour en faire autre chose, et puis d'autres marges se créent. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il existe des marges, des trucs qui se construisent un peu à côté, même si ça sera repris plus tard différemment et plus mis en avant. Il y aura toujours un petit pas de côté à faire. Enfin, il y aura toujours des marges qui existeront, quoi, je pense. Et moi, j'aime bien.
Et des retours en arrière aussi.
On peut être bien dans la marge, en fait.
Ouais, carrément. Ouais, bah oui, moi, ça m'arrange bien, des fois, d'être dans la marge.
Merci.
Merci.
Ah, est-ce que les gens sont intelligents, quand même. Chahut est toujours traversé par des questions sociales, des questions LGBT, les questions décoloniales. Cette année, ça a été travaillé dans des causeries, des performances, des spectacles. Et par exemple...
On va écouter Français, une proposition de Lamine Diane et de Raymond Dikoumé. C'était au Globe Théâtre. C'est une création encore en chantier et nous avons vu que 30 minutes de la pièce. Ça donne envie d'aller plus loin. Car leur regard croisé sur ce que l'on peut nommer la question noire française est plus que pertinente. Elle est nécessaire. Et juste après la pièce, il y avait notre ami de La Clé des Ondes et Labordé qui réalise une série podcast que vous connaissez sûrement bien sur les traces de Désirée. Elle était modératrice de la causerie Agora Décoloniale, le décolonial et l'intime. Et je peux vous annoncer que son prochain épisode diffusera une partie des témoignages de cette causerie qui était vraiment chouette.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Raymond Dicoumé.
Bonsoir, je m'appelle Lamine Diagne.
Et on est super heureux d'être là avec vous ce soir.
Oui, on va vous présenter... on va vous présenter un petit bout de notre chantier. C'est en cours. C'est pas du tout fini. C'est un spectacle qui doit voir le jour en novembre, 7 et 8 novembre. Et c'est un spectacle qui nous remue particulièrement parce qu'on a un petit peu notre propre matériau de construction. Et ça s'appelle Français.
Français, c'est dit, l'accent aigu. Et c'est pas une faute de français.
Pour nous, il s'agit de relever un véritable défi d'amour, partant du principe qu'on fait tous partie d'une même famille humaine, on est d'accord là-dessus, et plus particulièrement d'une même famille française.
Et dans cette famille, il y a des enfants qui vont mal.
Alors, vous allez entendre une histoire. Comme toutes les histoires, elle est fausse. Elle est subjective, elle est tronquée, tout ce qu'on veut. Mais c'est peut-être une histoire d'amour. Et aussi, c'est peut-être une histoire qui pourrait se terminer bien. Alors, dans cette histoire, il y a de la place pour tout le monde. Toute l'humanité. Le temps ne compte pas vraiment. On ressuscite le passé, on réveille les morts. Dans cette histoire, il y a des femmes pays. Il y a des femmes continents, aussi larges que généreuses. Il y a Raymond. Puis il y a moi. Il y a vous aussi, je vous l'ai dit, il y a de la place pour tout le monde. Mais on va s'intéresser à une famille en particulier, c'est notre petite famille française. Alors, comme dans toutes les familles, il y a des secrets.
C'est pas vraiment des secrets, hein, mais on évite d'en parler pour pas pourrir l'ambiance. Alors on a tout descendu à la cave pour éviter que les enfants jouent avec.
C'est moi, avec le temps qui passe, puis l'humidité, ça commence à sentir.
Ouais, alors ça fait pas forcément plaisir, mais il va falloir descendre.
En bas, c'est un autre monde. En bas, tout est à l'envers. Les racines sont les branches, le passé résonne fort, et le temps n'a rien arrangé.
C'est ainsi que j'ai rencontré Claire. Elle m'a pris par la main, et elle m'a emmené sur les toits. Nous avons regardé Paris, luisant sous la pluie. Elle a posé sa tête sur mon épaule, sans rien dire. Je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à lui parler. Je lui ai tout raconté. Mon enfance, mon voyage, des détails que j'avais moi-même oubliés. J'étais porté par son silence. C'était très étrange. Elle m'a écouté. Je veux dire vraiment écouté. Sans m'interrompre. Sans m'arrêter. Sans commenter. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Elle m'a embrassé. Elle a embrassé mon visage et mes mains. Je l'aimais. Si tu savais comme je l'aimais.
Donc, la question décoloniale a traversé ce chahut. D'ailleurs, toi, Aurore, tu as fait du vélo décolonial ?
Oui, oui. On en a entendu des morceaux dans mes paroles de l'année. Et j'ai adoré, parce qu'on a beau connaître le passé colonial de Bordeaux. Moi, ça fait 10 ans que j'habite cette ville. Et là, je l'ai vu différemment. Julie a choisi de nous faire parcourir la ville à vélo, au fil de portraits d'afro-descendants, de leur destin. Et on était une dizaine, une douzaine, et on était tous à fond. C'était un vrai voyage, dans une histoire pas assez racontée, hein, mais qui nous éclaire. Et à Chahut, cette année, comme les autres, il y a aussi eu des spectacles jeune public, comme...
Timide.
Mon père m'a dit que ce trésor était dangereux. Il mange la peur, mais la peur, c'est important. Si t'as jamais peur de rien, tu fais n'importe quoi. Tu sautes d'une falaise et... tu t'écrases. Ou alors tu marches sur l'eau et... tu te noies. La peur, c'est important. Ça te montre les limites de ce que tu peux faire. Mais si mes limites à moi sont toutes petites... C'est pas grave, ça. Moins grave que de t'écraser ou de te noyer. Pendant les jours et les nuits qui suivent, Lucas se bagarre avec sa peur.
Et j'ai le sentiment d'avoir retrouvé, en tout cas, cette idée, ce sens de se dire que il faut vivre avec sa peur.
Oui, c'est ça. C'est que, en fait, la peur. Enfin, il y a pas la peur. Il y a des peurs. En fait, il y en a plein. Il y en a qui te paralysent. Il y en a qui te poussent. Il y en a qui te font rendre muet. Il y en a qui t'amènent à te dépasser. Voilà. Mais sauf que. Quand on est enfant, on ne nous apprend pas, on ne nous accompagne pas forcément à apprivoiser cette peur. Et c'est ça qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'au début, la peur, ça l'effraie, ça le bloque complètement. Et il apprend à la connaître. Et petit à petit, il la maîtrise et il grandit, puisque c'est ça son rêve, son objectif pour être accrocheur d'étoiles. Mais c'est ça, la peur, c'est, ça peut être très bloquant, comme ça peut être un outil très porteur, très, très formateur.
Grandir, c'est un thème aussi du spectacle. Moi, j'ai vu aussi la maturité aussi, c'est-à-dire c'est vivre avec les autres, accepter les autres. Comment vous l'avez travaillé ?
Comment on l'a travaillé, ça ? Ouais, ce côté grandir, en fait, s'ouvrir aux autres. Je crois que c'est quelque... En fait, comme c'est quelque chose que j'ai vécu, je sais les étapes que j'ai traversées, moi. Et du coup, c'est les étapes qui sont écrites dans ce texte-là de Catherine Verlaguer et qui sont justes. Et à un moment donné, on est confronté au monde. On peut pas tout le temps s'extraire pour pouvoir se protéger, quoi. Et c'est dans Fragile, c'était un peu la même idée aussi. C'est la peur qu'avait Simon dans Fragile. Il avait peur du noir, il avait peur des araignées, mais en fait... Petit à petit, il comprenait que en apprenant à connaître l'autre, il en avait moins peur, parce qu'il savait quelles étaient ses peurs aussi à l'autre. C'est moi quand j'ai peur, si j'ai peur de toi, peut-être que toi aussi t'as peur de moi, et que si on se rencontre jamais, on restera avec nos peurs. Et ça, aujourd'hui, je crois que ça peut être intéressant de parler de ça, vu ce qui se passe aujourd'hui.
Absolument. Un spectacle
pour très jeunes et
jeune.
Moins jeunes.
On vient d'écouter Rémi Labrouche, timide, et c'est à voir et à revoir.
Alors, les jeunes et les moins jeunes sont présents dans plein de moments de Chahut, parce que Chahut, c'est un ancrage à l'année, un travail, un tissage avec les écoles, les centres sociaux des quartiers, principalement Saint-Michel et la Benauge.
Tout à fait. Pour ma part, j'ai eu un grand plaisir à aller écouter la proposition de Valérie Le Naour et de Fanny Véron de la compagnie Palabras et surtout les élèves de 3e du collège Jacques Ellul sur la rive droite. Donc c'est une création d'un parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est surtout une fenêtre qui ouvre vers l'intime. Mais qu'est-ce que vous faites ici ?
On est là depuis un petit moment au collège Jacques Ellul. On a mis le pied dans la porte de ce collège il y a 3 années maintenant, quand il était encore à la Benauge de l'autre côté de l'avenue Thiers. Et là, ça fait... quelques mois qu'on vient régulièrement avec la classe de 3e D. C'est des élèves de SECPA. Et on est arrivé au bout de ce qu'on avait à faire ensemble.
Alors, il y a des casques, des caisses en bois et à l'intérieur des témoignages. Et qu'est-ce que ça nous dit ?
L'année de 3e, c'est une année où on doit faire beaucoup de choix et qui est assez stressante pour les élèves. Il y a la pression... de l'école, il y a la pression de la famille. Et nous, ça nous intéressait beaucoup de savoir comment on choisit et comment on s'oriente. Mais on n'avait pas envie de rajouter du stress encore sur leurs épaules. Et on a proposé aux élèves, au lieu de les questionner eux directement, qu'ils aillent s'adresser à des adultes en leur demandant « Et vous, quand vous aviez mon âge, quand vous aviez 15 ans, à quoi vous rêviez ?» Est-ce que vous arriviez à vous projeter dans votre vie de plus tard? Et c'est ça qu'ils ont mené. Ils ont choisi des adultes du collège. Ils ont fait des interviews avec cette question-là, principalement, et puis plein d'autres petites questions autour.
Il y a un moment donné où il y a des adultes du collège qui ont été interviewés. Donc vous avez interviewé des personnes qui travaillaient, des enseignants, la direction. Ça fait quoi de parler à un adulte du collège en lui posant peut-être des questions qui sont un peu intimes?
On n'a pas le même point de vue quand on a fait les interviews sur nos profs. Parce que nos profs, on les imaginait un prof de maths, on l'imaginait être en cours, toujours en maths et tout. On l'imaginait pas avoir une vie comme nous, comme 15 ans et avoir des études ou être pas bon à l'école.
Parce que le projet, c'est ça, c'est à partir de 15 ans, si vous avez posé des questions, c'est comment vous étiez à 15 ans,
quoi. Oui, comment ils étaient à 15 ans, c'était quoi leur métier de rêve, le stage qu'ils ont fait, et est-ce qu'ils ont réussi à avoir leur premier vœu et tout.
Et leur passion, ce qu'ils aiment faire, les trucs qu'ils aiment faire en dehors du col, en dehors de la vie de prof, et ce qu'ils voulaient faire, et s'ils avaient prévu un projet après ce métier-là, ou s'ils voulaient continuer ce métier.
Ça fait quoi? Ça apaise, ça gratte, ça pique.
Coucou.
Ça, c'est à eux qu'il faudrait demander. Hein.
Quand on écoute ces sortes de témoignages, d'interviews, je ne sais pas, comment vous appelez ça, vous?
Une interview. C'était un moment où il y avait une prise de rendez-vous. Les personnes ont accepté. Elles savaient... Je savais qu'elles avaient un moment de temps à donner et elles ne savaient pas forcément quelles questions allaient leur être posées, mais elles étaient d'accord pour jouer le jeu. Et les enfants, enfin les adolescents, eux, de leur côté, avaient préparé.
Ça permet l'intime ?
Oui, parce que c'est pas si souvent qu'on se retrouve dans une petite pièce avec un adulte et un élève du même collège. D'habitude, c'est même jamais. C'est toujours un adulte et beaucoup d'élèves dans une même pièce un peu grande. Donc je crois que c'était même la première fois que ça pouvait se passer, cette configuration-là, pour à peu près toutes les interviews.
Sur la planche, c'est le nom de cette création. Et on peut retrouver le podcast entier que tu as fait dessus, sur le site de La Clé des Ondes. Voilà, donc on se rencontre, on crée ensemble, aussi avec les adultes, comme avec la proposition Fantôme et ses complices.
Alors les complices, c'est ces personnes qui participent bénévolement à un spectacle. Au départ, elles ne se connaissent pas, elles osent monter sur scène. Et la magie de Chahut, c'est qu'elles ont des sociotypes très différents. Allez, on écoute.
Qu'est-ce que ça veut dire être complice ?
C'est mettre ses forces au service du projet, de vivre ensemble, tout un déroulé où on s'appuie les unes sur les autres. C'est ça, être complice, on s'appuie les unes sur les autres.
Je t'ai vu danser, chanter. Vous avez travaillé combien de temps pour arriver à faire ça?
Mais rien du tout en fait, juste trois petites sessions de 2 heures, 3 heures max. Et super bien encadré, avec une grande patience. Et voilà, on était toutes pas très sûres de nous. Mais au fur et à mesure, on s'est toutes aidées les unes les autres.
Qu'est-ce que tu as ressenti en faisant ça?
D'être au cœur de quelque chose qui bat, qui vit. Et puis de la puissance à certains moments, et puis du, de l'hésitation à d'autres. Plein de choses, plein d'émotions différentes.
C'est comment? C'est fort? Ça emporte? Ça fait bouger?
Ouais, quand on arrive à lâcher prise et de pas être trop stressé parce que les actions qu'on doit faire, quoi. Mais oui, à certains moments, oui.
Merci.
Mais de rien.
Clin d'œil, tendresse et baiser, parce que j'ai dit que pour nous, ça avait été une semaine chahut endeuillée. Bon ben, il se trouve que c'est aussi la semaine où Françoise Hardy est morte, et que même si elle était très moyenne politiquement, on peut dire qu'elle a fait partie de nos paysages musicaux pendant toutes ces années, et pour de très belles choses comme ce « Et si je m'en vais avant toi » avec Étienne Daho. Bon, mais revenons à Chahut, qui, il ne faut pas l'oublier, est aussi synonyme de fête, de célébration, de couleurs, jaune, de doré, d'argenté, de paillettes, dans et sur les yeux. Chahut, c'est la fête, comme toujours, des soirées, cette année encore, des concerts gratuits dans la rue des Douves, comme Jacques Nashimai, ou au Capu, avec le DJ set de Jamei Chao ou Rita Rita. Et toi, tu t'es rendu
À la fête des sosies, donc construit comme une fête de quartier aux formes carnavalesques. Cécile Maurice, l'éminente, on a fait un moment très drôle avec des sosies improbables.
Elles sont le sosie de son sosie, le sosie. On est sur un petit équipe. Regarde-moi cette génialité.
Oh là 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 là, on est complètement perdu. La ressemblance est quasi parfaite.
Et je crois, mesdames et messieurs, que je n'ai peut-être pas besoin de citer son nom. On le remarquera que nous-mêmes. Madame, si vous voulez défiler, c'est à votre tour, allez-y.
Ah, j'ai envie de dire.
Et là voilà.
Ah, oui, 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 allez, on l'applaudit. Ah oui, Madame de Fontenay, messieurs, dames. Oh là 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 là.
Donc, on se rapproche de Geneviève. Qu'est-ce qui, Geneviève de Fontenay, qu'est-ce qui vous a fait venir à la fête des sosies?
Parce qu'on m'a déjà dit que j'étais le sosie. À force de m'entendre dire que je mets toujours des chapeaux, j'ai pensé qu'effectivement, il fallait que je vienne en Geneviève. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un mix entre... On m'a dit que je ressemblais aussi à Brigitte Fontaine, donc j'ai voulu faire un mix Brigitte de Fontenay.
Alors maintenant, je vais poser une question à Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine, voilà, hop, on enlève le chapeau, on est Brigitte Fontaine. Un mot peut-être?
Oh, trop loin, c'est trop loin, là, non, ça va.
Ah. Voilà, donc, Brigitte n'aime pas l'interaction.
Non, j'aime pas, non, vous me laissez tranquille, je sais pas qui vous êtes, monsieur, je sais pas qui vous êtes.
Allez, ça paraît un peu compliqué. Brigitte, une chanson?
Non, je suis décadente.
Merci.
Et Camini derrière.
Oui, ça continue. Ah, c'est beau.
C'est très beau.
Ah oui.
Très, très beau. Là.
On a des très, très belles séries ce soir. Hein.
Il faut combien d'années pour devenir sosie officielle?
Je ne suis pas un sosie, en fait. Je passe incognito en me faisant passer pour qui je suis vraiment. Je suis Denis Paladides et tout le monde pense que je suis quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est tout un art de se faire passer pour quelqu'un d'autre que qui on est en se faisant passer pour qui on est. Vous m'avez suivi?
Alors, est-ce que Denis Paladides a passé une bonne soirée?
Bah, écoutez, je citerai Paul Éluard. Il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci.
D'accord. Ben, je vous remercie, Denis. Peut-être qu'on se retrouve à la buvette après.
Oui, j'ai une idée de scénario pour vous. Ce serait assez intéressant. C'est l'homme qui avait une double vie, qui a choisi d'en avoir plus qu'une. Deux métiers, deux passions, à la fois au micro et puis sur les radios. Vous serez un super personnage, je pense.
On fait le casting dans pas longtemps.
Non, c'est tout fait.
Ah, d'accord. Merci.
Allez, mesdames et messieurs, nous n'avons pas ce soir Wonder Woman.
Non,
ce n'est pas Wonder Woman.
Non,
c'est Wonder Woman.
Et oui, la fête des sosies, mais il y a aussi eu la fête de la Saint-Jean, hein, organisée à la Benauge, au parc, comment s'appelle-t-il déjà?
Pinson.
Le parc Pinson, voilà. Allez voir et écouter nos podcasts Chahut, parce que tu as aussi fait un podcast sur cette fête.
Ouais, tout à fait.
Bon, alors bilan, qu'est-ce qu'on retient là de cette année à Chahut? Qu'est-ce qui t'a particulièrement saisi cette année, Rémi?
Oh là là, c'est une question vraiment compliquée, Aurore, parce que j'ai trouvé cette édition très riche et tu vois les propositions dialoguer les unes aux autres. Comment te dire, Lorraine Marx, Cécile Ripoll, 13 faisaient comme un tout sur la question de la norme. Mais je crois que j'ai très envie de voir aussi la sortie de Français, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis mon cœur, allez, il est resté cloué à la proposition de Palabras et de ses collégiens que j'ai trouvé vraiment géniaux.
Bon, bah, pour ma part, moi, je voulais souligner un peu la proposition de Michael Filippo, Portrait fantôme. L'artiste a investi en avril 3 appartements de Saint-Michel en l'absence de leurs habitants. Et nous étions invités à déambuler dans ces 3 appartements avec une visite guidée, portrait, chorégraphié, écrit par Michael Filippo. C'était une proposition improbable, très, très chouette. Et ce qui est bien avec Chahut, c'est ça, c'est que ça s'invente. Déconstruisons, reconstruisons, c'est peut-être le petit conseil rature pour cet été. D'ailleurs, c'est un conseil qui est dans le fil d'une conversation que j'ai eue dernièrement avec Geoffroy de Laganerie sur son dernier ouvrage « Se méfier de Kafka ». Entretien qui sera bientôt diffusé sur La Clé des Ondes et dont je vous délivre un petit avant-goût.
Vous êtes intéressé, j'ai l'impression, par toute forme de destruction institutionnelle, déconstruction.
Déconstruction, reconstruction.
Oui, voilà. C'est-à-dire, une observation du réel nous met forcément dans la conviction que ça n'est pas ce qu'on nous a dit que c'était. mais c'est en même temps très confortable aussi. Et en fait, du coup, on ne réfléchit pas à ce qu'on pourrait faire d'autre, quoi.
Alors, c'est vrai aussi qu'il faut mentionner, et c'est important, et c'est pour ça aussi que je fais mon livre d'après, c'est que c'est très, très difficile de critiquer le présent sans avoir une image du futur. Et c'est l'une des choses qui explique parfois la faiblesse de la gauche. C'est que quand vous dites que vous voulez abolir le capitalisme, que vous voulez abolir la pénalité, si vous n'avez pas l'image d'une institution autre que vous pouvez lui substituer et qui peut fonctionner comme un référent positif, bah, par exemple, c'est très, très dur, effectivement, de porter la critique parce que vous avez toujours l'objection. Qu'est-ce que vous faites si un mari bat sa femme? Qu'est-ce que vous faites après une agression sexuelle? Qu'est-ce que vous faites après un attentat de masse, etc.? Et comme il y a cette espèce d'impossibilité de se référer à un contre-modèle pour mettre en question le présent, bah, effectivement, même la critique, elle devient un peu inefficace parce qu'on dit « bah oui, mais tu ferais quoi ?» Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça la question. Par exemple, quand je fais le livre sur l'amitié, 3, pour lequel vous m'aviez déjà interrogé, là, je peux proposer un modèle. Je peux dire, là, je critique le modèle familial et j'ai une utopie opposée. Et donc, on comprend beaucoup mieux le fonctionnement de la famille parce qu'on voit d'autres agencements relationnels possibles. Et donc, la critique, elle s'articule à une reconstruction possible qui la rend beaucoup plus efficace. Ce qui est le problématique, c'est que la tradition de l'abolition pénale, c'est-à-dire de la proposition concrète d'institutions alternatives à la pénalité pour gérer les violences que les gens exercent les uns sur les autres, eh ben, elle n'a pas été construite, elle n'a pas été faite, ce travail-là, parce que les intellectuels, très souvent, refusent le travail de reconstruction. Parce qu'ils disent, c'est pas à nous de le faire, c'est aux experts, c'est aux juristes. Nous, on fait que critiquer, on produit pas des nouveaux cadres de pensée. Et donc, c'est aussi à la faute des intellectuels, si on est démunis par rapport à la radicalité de la critique de l'État pénal. Et c'est pour ça que moi, alors voilà, je le dis, hein, ce que je suis en train de faire, c'est ça. C'est de me dire, je ne vais pas me contenter de critiquer la pénalité. On sait le faire, ça fait 50 ans qu'on le fait, ça fait 150 ans qu'on le fait. Je vais m'atteler à construire un cadre possible de gestion des conflits alternatif à la pénalité et proposer une contre-utopie à la réalité pénale. Et je pense que quand on aura fait ce travail-là, alors on pourrait être beaucoup plus fort pour s'opposer à la pénalité, parce qu'on a l'idée d'une gestion alternative.
Par exemple, pour cette invention-là, cette reconstruction dont vous parlez, qu'est-ce qui vous inspire? Sur quoi vous vous appuyez? Est-ce que c'est des affects
Vous savez, je ne suis pas mitterrandien, mais il y avait une phrase de Mitterrand qui était « je crois aux forces de l'esprit ». Vous savez, moi, je crois aux forces de l'esprit, c'est-à-dire je crois vraiment à l'idée de penser, à l'idée de réflexion et de spéculation. Donc, je vais dire des choses très banales. Mais quand je me lance dans un projet comme ça, bah, je lis énormément sur des expériences de justice alternative, sur des manières différentes de gérer tout un ensemble de problèmes. Il y a toujours, quand vous vous intéressez à ce sujet, vous vous rendez compte qu'il y a toujours 2000 livres qui ont été écrits depuis 30 ans sur ce sujet, mais qui n'ont jamais été vraiment rassemblés, synthétisés, systématisés, etc. Et donc, j'essaye au maximum. Moi, c'est par la pensée que j'essaye de rejoindre le monde. Je pense qu'il y a des manières différentes de rejoindre les autres. Il y a la sensibilité, il y a l'écriture romanesque pour certains, il y a les films. Moi, c'est par la spéculation que j'arrive à rejoindre les autres, bizarrement. C'est cette manière-là que j'arrive à me confronter à d'autres singularités ou à d'autres potentialités du monde. Donc, moi, je vous dirais une chose très simplement, c'est par l'écriture, la lecture, la réflexion.
Voilà, donc c'était un petit extrait de Geoffroy de Laganerie et un entretien que vous pourrez écouter sur La Clé des Ondes bientôt. Ben voilà, donc pourquoi le lien avec Geoffroy de Laganerie, c'était cette idée de déconstruction-reconstruction, parce que voilà, il y a un bouillonnement à Chahut qui nous emporte à chaque fois. Et donc évidemment, mille merci à Chahut, merci à tous les actrices du festival, les bénévoles.
Merci aussi à Romane et Amandine qui nous ont choyés.
Merci à tous ceux qui font que ce moment de Chahut reste vivant, vivace, inventif, intelligent. On en a besoin.
C'est sûr.
Alors, peut-être on peut se dire au revoir pour cette année, sachant qu'on se retrouvera après, normalement.
Normalement.
Et je voulais juste donner deux, trois pistes, si vous ne savez pas quoi faire dans les les week-ends qui viennent. Donc ce samedi 29, là, il y a, on vous propose de visiter la Maison de Mons. Ça, c'est les escales du livre qui organisent ça. Il y a des ateliers où on peut rencontrer les gens qui habitent cette maison. Vous pouvez avoir toutes les infos sur le site des escales. Le week-end du 6-7, il y a deux propositions. Vous pouvez choisir ou aller dans les deux. Il y a les jardins sonores au parc Chanteclair à Talence, avec plein de propositions d'ateliers sonores et puis des concerts sur le week-end. Et puis à la Villa Valmont, en fait, on vous propose de plonger dans l'univers des éditions Sarbacane avec des expositions, des ateliers, des spectacles, etc. Ça, c'est à Lormont. Mais bon, évidemment, voilà, cherchez, il y a plein de choses à faire. Et puis, passez un bel été.
Voilà, donc on se quitte pendant au moins 2 mois. On va essayer de faire passer les ratures de cette année. On va voir, on est en train de s'organiser. Vous êtes bien sur la Clé des Ondes, c'est sur le 90.10 et vous restez absolument parce que après il y a une émission géniale qui s'appelle Salut les fantômes. Alors, c'est à vous, salut les fantômes, et on se quitte en musique.
On se quitte avec un morceau de Mira qui s'appelle Pom Pom. Salut.
Ouais, ouais, ouais. C'est un peu serré, serré. J'ai l'esprit tout bleu, tout blé. Je veux pas que là je me rende amer. J'ai promis la mer à ma mère. Je promets pas la lune à tes yeux. Et tu sais, le temps fait bien les choses. Je pense même plus à lui. T'étais si beau avant. Tu me dégoûtes aujourd'hui. Ce qu'on fait les uns pour les autres, c'est jamais acquis. Tu sais, ce qu'on dit des bien maloqués. En moi, mon love, je le donne à qui. Au
matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom. Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom.
M'arrache pas mon amour, s'te plaît. Mais me lâche pas mon amour. M'arrache pas mon amour, s'te plaît. S'te plaît. M'arrache pas mon amour, s'te plaît. Mais me lâche pas mon amour. Mon amour. M'arrache pas mon amour, s'te plaît. S'te plaît. Peut-être qu'on est tous des enfants perdus. Des potions bizarres plein l'estomac. Perds plus ton temps, n'en écoute pas, c'est tout. Ton histoire,
que ça parle, ça parle.
Bien, 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 bien. Ma vie, elle compte pas plus qu'une autre. Sur ma vie que je vis pas pour un autre. Non, non, non. Je crois que je suis faite pour la manée. Je crois que je suis faite pour la manée. Souvent, cette vie, elle me fait mal. Ah ouais, mais je crois que je suis faite pour la maille.
Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom. Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom.
M'arrache pas mon amour, s'te plaît. Mais me lâche pas mon amour. M'arrache pas mon amour, s'te plaît. S'te plaît. M'arrache pas mon amour, s'te plaît. Mais me lâche pas mon amour. M'arrache pas mon amour, s'te plaît. S'te plaît.
Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom. Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom.